Ce qui caractérise la période intermédiaire entre le maintenant et le pas encore dont nous avons parlé la semaine passée, entre le royaume qui vient et celui qui est déjà là, c'est la présence du Saint-Esprit au sein du peuple de Dieu. L'Église est le seul lieu où Dieu règne par l'intermédiaire de son Esprit. Vous aurez peut-être remarqué que vu l'état du monde, on ne peut pas vraiment dire que l'Esprit de Dieu règne dans le monde, mais il est supposé régner dans l'Église et dans nos vies. Ce temps de l'Église qui court depuis près de 2000 ans maintenant est le temps du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle en théologie la dispensation de l'Esprit. C'est un beau terme, cette dispensation. Mais là encore, le don de l'Esprit Saint est marqué par les deux dimensions temporelles du royaume. Déjà là, pas encore. Même la vie dans l'Esprit est marquée par cette dualité. Alors j'ai pris un texte, il y en a de l'Ancien Testament, il y en a des dizaines. Il y en a dans Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, que je cite. « Jusqu'à ce que l'Esprit soit déversé d'en haut sur nous, alors le désert se transformera en verger, le verger sera assimilé à une forêt, le droit aura sa résidence dans le désert, la justice habitera dans le verger. » Ésaïe annonce les temps messianiques, les temps où le royaume sera vraiment installé. Et un autre texte dans Ésaïe magnifique, Ésaïe 11, où il est dit que l'agneau habitera près du lion. Vous vous rappelez ? Où le petit enfant ou l'enfant mettra sa main dans le trou du serpent et le serpent ne lui fera aucun mal. Et que c'est l'annonce de la paix messianique. Mais cette paix messianique, ce royaume n'est toujours pas venu. Vous avez remarqué quand même. N'allez pas dans un zoo et rentrez dans la cage au lion pour l'instant, les gars. Ce n'est pas encore le royaume. Un jour, vous pourrez, mais il n'y aura plus de cage non plus. Voilà. Donc, le don du Saint-Esprit est là. Là. Oh, bénédiction distinctive qui accompagne l'entrée dans le royaume de Dieu et le signe que le royaume en question pointe à l'horizon. Mais en même temps, sa présence en nous marque seulement le début de notre entrée en jouissance pleine et entière de l'héritage du royaume de Dieu qui doit venir. Alors, j'y reviens tout à l'heure, mais on attend plein de trucs de Dieu, hein, surtout des trucs ici-bas. En fait, on a un problème, on ne devrait pas. Hein. Parce que quand je dis que l'Esprit de Dieu est le don que Dieu fait à son Église et à nous, qu'est-ce que vous voulez avoir de plus, même ici-bas, que le fait que Dieu est en vous, franchement. Et on nous a encore demandé tellement de trucs en plus et à côté. J'en dis, on devrait apprendre à se contenter de ça, non? Je ferme la parenthèse. Hein. L'Esprit est déjà là. Mais tout n'est pas encore parfait. L'Esprit est déjà là, mais pas encore sa plénitude permanente. On peut être rempli parfois, à certains moments, hein, même totalement. Mais dans mon expérience, cet état de remplissage par l'Esprit, eh ben, il ne dure pas. En fait, l'Esprit est la preuve, ça c'est important, hein, est la preuve que le reste, ce que Dieu promet en plus, nous sera un jour donné. Parce que vous avez l'Esprit, vous pouvez être certain que Dieu vous donnera le reste, à savoir le royaume qui vient. Le Nouveau Testament utilise trois images, trois métaphores pour illustrer cette réalité. La première est tirée du monde agricole, ce qui n'est pas étonnant puisque dans l'univers biblique, le monde agricole est quand même la réalité systémique, donc environnementale, générale. Donc je prends un premier texte en Romains 8, je vais prendre deux, trois textes en chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Cette première image que Paul emploie donc à la dynamique agricole. Et ce n'est pas elle seulement, à savoir la création, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Il y a à nouveau les deux royaumes, là. Ça n'en a peut-être pas l'air à première lecture. L'adoption, nous sommes adoptés par Dieu, hein. Alors pourquoi est-ce que nous sommes adoptés? Il y a des théologiens qui disent que nous sommes des fils et des filles naturelles de Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le seul fils naturel de Dieu, c'est Jésus, parce qu'il est de la même substance que Dieu, que le Père. Il est Dieu. Nous sommes, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes, même avec la présence de l'Esprit, nous sommes des fils et des filles adoptés par Dieu. Et Paul dit, nous sommes adoptés, mais nous attendons encore l'adoption. Parce que le royaume est déjà là, mais pas encore. On est certain par la foi et la présence de l'Esprit que nous sommes des enfants de Dieu, mais on va vraiment prendre ça dans la façade quand on sera auprès de lui. Là, ça va être le pied, mais intégral. Déjà parce qu'on commence par un banquet. Paul nous parle de prémices. Alors, c'est un terme un peu désuet. C'est-à-dire, les prémices, c'est quoi? Ce sont les premiers fruits d'une récolte. C'est ça, les prémices. Mais si ce sont les premiers fruits, c'est que la récolte, l'entièreté de la récolte est encore à venir. Vous me suivez? Donc, l'esprit est en nous et est un avant-goût. On le goûte déjà ici, hein, mais c'est un avant-goût de ce qui nous attend. Mais en même temps, c'est normal, puisque tout n'est pas encore réalisé. Nous soupirons, dit Paul, en attendant la révélation du royaume qui vient. Et la création soupire avec nous, parce qu'elle attend, elle aussi, le royaume. Pourquoi? Parce qu'elle souffre, on a remarqué, hein, les marches contre pour le climat, tout ça, c'est très joli. Hein. C'est un peu tard, à mon avis. C'est très joli. En attendant, cette réalité, la création souffre avec nous. Il est d'ailleurs intéressant que Paul utilise cette image des prémices, des premiers fruits, pour parler de l'esprit donné à l'Église. Car ce sont ces mêmes prémices, ces mêmes premiers fruits de la récolte à venir que les Juifs fêtaient lors de la fête de la Pentecôte. Mais donc c'est une fête juive, la Pentecôte, avant d'être une fête chrétienne. Et dans la loi mosaïque, vous pouvez prendre la Torah, on parle de la fête de Pentecôte dans l'Exode, dans le livre des Nombres, dans le livre du Deutéronome et dans le Lévitique. Donc quatre des cinq premiers livres de la Bible, de la Torah. Mais dans le judaïsme, la fête de la Pentecôte est une fête agricole. On remercie Dieu, on va avec les premiers fruits de la récolte. Si vous élevez, vous créez des pommes, vous allez avec vos premières pommes. Vous avez un champ de blé avec vos premières gerbes de blé. Les offrir à Dieu, pas seulement, à Dieu et aux serviteurs de Dieu, aux prêtres. D'accord ? Donc ces fruits, on ne les apportait pas pour les jeter en l'air. Hein. On les amenait dans le temple pour les offrir à Dieu. Merci Seigneur de ce que ces fruits sont la preuve que tu as béni nos récoltes et que tu es avec nous. Et une bonne partie de ces fruits et de ces premières prémices étaient données aux Lévites, aux prêtres. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils n'avaient pas de terrain, ils n'avaient pas de terre. Ils étaient consacrés totalement à Dieu. Donc vous comprenez, c'est d'abord une fête juive. Ce qui est très intéressant, c'est quand on s'arrête. Vous savez comme moi que c'est le jour de la Pentecôte que l'Esprit Saint était donné aux apôtres. Croyez franchement que Dieu a fait ça par hasard ? Qu'il a choisi le jour de la fête des premiers fruits pour envoyer son esprit sur ses disciples ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. On va venir. Je l'ai dit, lors de la fête juive de la Pentecôte, ces premiers fruits étaient destinés à Dieu et aux prêtres. Alors, quand on réfléchit, l'Esprit Saint, faisant lui aussi partie des premiers fruits du royaume, il est le premier fruit du royaume qui vient, il est donné à l'Église. Il est normal qu'il ait été donné et qu'il ait fait de nous un royaume de prêtres. C'est, en fait, c'est automatiquement, c'est ce que Pierre dit, je vais le lire par ça, automatiquement ce que Pierre dit qui s'est passé à Pentecôte. Le premier fruit du royaume qui vient, c'est le don, le jour de la Pentecôte. Le premier fruit, c'est l'Esprit Saint. Il vous est donné et il fait de vous quoi, l'Esprit Saint ? Des prêtres. Donc, il fait de vous des prêtres et il est donné à qui ? Aux prêtres de la Nouvelle Alliance que nous sommes. Vous me suivez ? Il ne faut pas mentir, hein. Voilà ce que Pierre dit, première lettre de Pierre. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux. Nous sommes rois et prêtres, parce que nous sommes héritiers du Christ, qui est roi, voilà, co-héritier, puisque nous sommes fils et filles de Dieu. Une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est une bonne nouvelle quand même. Donc, ce n'est pas par hasard que l'Esprit Saint est donné à l'Église le jour de la Pentecôte. Nous sommes les premiers fruits grâce à l'Esprit qui est le premier fruit. Okay ? La deuxième image, ça c'était la première, est tirée du domaine commercial. C'est toujours Paul qui emploie cette image, mais dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, donc pour porter l'Évangile, qui nous a donné les arts de l'Esprit. Oh, là encore, les arts, c'est un terme un peu désuet qui n'a plus trop cours de nos jours, sauf dans le domaine commercial. La définition des arts est celle-ci. J'ai ouvert le Larousse, hein, je ne me suis pas cassé la tête. Somme d'argent remise lors de la conclusion d'un contrat. Nous avons donc un contrat qui est passé entre Dieu et nous. Et l'Esprit Saint, dans ce contrat, c'est les arts. C'est la garantie, le gage entre nous et Dieu concernant toutes les promesses encore à venir. C'est la garantie que Dieu nous donne. Parce que vous avez l'esprit, vous êtes certain que je payerai le reste, que vous hériterez du royaume. Donc l'Esprit Saint garantit le royaume à venir et l'héritage que nous percevrons. Donc ça devrait pratiquement nous encourager à râler beaucoup moins contre Dieu et à lui dire surtout beaucoup plus souvent merci. Non ? Je veux bien que ça ne change rien, hein, vous allez continuer à râler, je sais. Et enfin, troisième image, elle est tirée du langage du royaume de Dieu. Alors celle-là, on la connaît peut-être, mais on a vraiment du mal, un, à la comprendre, parce qu'on ne veut pas la comprendre, et deux, à la vivre. C'est le tout début de la lettre de Paul à l'église d'Éphèse où il va développer le plus sa théologie de l'église. Commence bien sa lettre lui. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bénédictions spirituelles. Il ne parle pas de pognon, il ne parle pas de maison, il ne parle pas de... Spirituelles. Oh, de quelle bénédiction spirituelle s'agit-il ? L'Esprit Saint, je pourrais m'arrêter là, c'est bon, on passe à autre chose. Et puis le reste, les dons spirituels, etc. Donc, les bénédictions données par Dieu à son Église, à son peuple, à ses enfants, sont d'abord de nature spirituelle. Autrement dit, nous possédons d'ores et déjà les biens d'en haut à venir. Et certains, on les possède déjà. Les dons spirituels, le fait que je suis en train de prêcher, etc., c'est un de mes dons. Et puis l'Esprit Saint, encore une fois. Donc ça devrait nous rassurer quant au fait que les bénédictions de Dieu, dont Dieu nous comble, viennent d'ores et déjà du royaume à venir, et pas spécialement d'ici-bas, car ces bénédictions sont avant toute chose de nature spirituelle. Donc quand on n'arrête pas de prier pour « je veux plus de pognon, je veux un meilleur boulot », vous pouvez le faire hein, à la limite, mais j'exagère, je caricature, mais soit « je veux une plus grosse voiture, je veux une bonne santé, et gna 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 ». Je veux me marier, je veux avoir des bébés. C'est pas pour ça que vous ne devez pas vous marier et faire des bébés. Mais pas trop, on est 7 milliards et demi, c'est bon. Hein. Allez multiplier, c'est bon, on a le compte. Il faut s'arrêter un moment. Prenez un chien. Ça s'éduque quand même, les chiens, c'est comme le reste. Hein. Donc, la première bénédiction spirituelle, j'espère que ça, vous l'avez compris, et c'est dedans, hein, c'est l'Esprit Saint. Donc déjà, tous les matins, enfin, désolé, hein, je suis un incurable optimiste, Seigneur, donc, le moment où vous vous placez devant Dieu, ben, il faut commencer par lui dire merci pour son Saint-Esprit. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, et vous avez bien compris, du moins j'espère, que parfois le royaume ne peut pas faire éruption dans notre monde actuel sous la forme d'une bénédiction ou l'autre. Nous pouvons être bénis, ici, matériellement, par des interventions de Dieu. Ça arrive, mais ce n'est pas la norme. Ce n'est pas ce qu'il faut attendre en priorité. Parce que le danger, j'ai déjà dit à d'autres moments, mais le danger, c'est encore une fois de focaliser sur tout cela vous sera donné en plus. Autrement dit, qu'on focalise sur ici et maintenant. Et que notre relation à Dieu, elle est basée sur quoi ? Sur ici et maintenant. Ça, c'est pas raisonnable. Parce que encore une fois, quand Jésus dit « Demandez en mon nom et vous recevrez », oui, mais qui demande ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette parole de Jésus ? C'est terrible, cette parole. « Oui, non, je peux demander ce que je veux. » Ah, non, non. Tu dois apprendre à demander ce que Jésus demanderait. Ouais, comment Jésus va demander une grosse bagnole, plus de pognon, un meilleur boulot, moins d'emmerdements, une bonne santé. C'est un SDF, Jésus. Hein. À niveau humain, SDF. Ben, c'est vrai. Hein. Je n'ai pas un endroit pour poser ma tête. Rappelez cette parole. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et cela vous sera donné en plus. C'est dans Matthieu. Ça veut dire quoi ? Ben, Jésus garantit le nécessaire pour vivre notre vie d'homme ici-bas. Il garantit le minimum, le pain, enfin le manger. Quoi. Quand vous prenez le contexte justement sur la montagne, il dit à des pauvres, physiologiquement, sociologiquement à des pauvres, ne vous cassez pas la tête à savoir ce que vous allez manger et boire. À des pauvres, il dit ça. Hein. Des gens qui le matin en se levant ne savaient pas s'ils mangeraient, ils auraient à manger la journée. Hein. Il dit, recherchez d'abord le royaume. Autrement dit, Jésus leur dit, arrêtez de vous casser la tête avec ici-bas, occupez-vous de ce qui est là, et votre Père s'occupera de ce qui est ici. Dans le cas contraire, si on inverse, et c'est ce que nous faisons souvent, beaucoup de chrétiens font ça, on s'occupe d'abord de notre petite vie ici-bas, ce qui est le boulot de Dieu, eh bien, le royaume ne se construira jamais en nous, parce que notre royaume, ce sera notre royaume que nous avons construit, et pas le sien. Et il y a des conséquences à ça. C'est qu'on se battra pour faire ce que nous voulons et on prendra de mauvaises décisions. On voudra fabriquer notre royaume ici par rapport à nous et pas le royaume de Dieu. Mais la vie est impossible sans décision et sans choix. Et on va donc faire de mauvais choix, prendre de mauvaises décisions qui auront de mauvaises conséquences. Donc c'est super important de comprendre cette phrase. Donc si je vais résumer, si on prend cette phrase à l'envers, ce que la plupart d'entre nous font, je pense, souvent, les chrétiens en tout cas, à s'occuper de notre royaume d'abord, eh bien, on prendra soin de notre vie sur cette terre. Notre royaume à nous sera dans notre cœur, et si ce royaume-là est dans notre cœur, celui de Dieu ne grandira pas en nous. L'Esprit Saint nous a été donné pour que nous puissions déjà spirituellement prendre plaisir au royaume de Dieu maintenant ici, afin qu'un jour nous puissions en jouir pleinement. Et ce, indépendamment des circonstances que nous pouvons traverser ici. C'est ça qui se joue, mes amis. Dieu ne va pas arrêter les souffrances et les catastrophes liées à la vie ici-bas. Il ne va pas arrêter les maladies. Il y a une épidémie de rougeole, faites attention, surtout les mecs, ça rend stérile. Comme on a le compte au niveau bébé, ce n'est peut-être pas plus mal. On voit la rougeole. Non, mais il y a vraiment des conséquences très pratiques à ça. C'est super important. Comme Dieu ne va pas tout transformer, il ne va pas transformer la société, ça veut dire qu'en tant que chrétien, si le royaume de Dieu est vraiment en nous, on va encaisser les trucs. On va les vivre avec Dieu. Et je pense que c'est ce que Paul dit, toujours dans Romains 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Paul dit, je souffre, vous souffrez parce que vous appartenez au Christ. Eh bien, gloire à Dieu, tant mieux. Mais vous êtes appelés à souffrir et vous êtes appelés à vivre toutes ces souffrances liées à la terre avec le Christ. Parce que le royaume arrive et que c'est ça qui compte. Si vous avez construit, basé toute votre vie sur votre royaume à vous à construire, vous n'allez jamais parvenir à passer à travers les trucs difficiles de la vie. Vous allez lâcher. Parce que votre royaume est factice. Et vous avez l'idée que Dieu va vous protéger de tout, ce qui est totalement faux. Ou que Dieu va vous guérir de tout, c'est totalement faux. Plus loin, toujours dans le même chapitre, Paul rajoute, ça c'est très important aussi, dans la dimension qu'un chrétien peut passer par des moments terribles et garder sa paix et sa joie en Christ. Voilà ce qu'il ajoute. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, puisque l'œuvre de Christ est le fondement par lequel nous sommes liés à Dieu. Personne ne peut détruire ça. Mais mes amis, dans les faits, au quotidien, pour un nombre incalculable de raisons, nous pouvons nous sentir loin de l'amour de Dieu. Et la raison principale à ça, c'est que ce que nous vivons de plus difficile ici-bas, nous le vivons encore trop souvent sans avoir le regard posé sur Jésus, sans penser au royaume qui vient et qui est éternel, alors que nos souffrances sont passagères. C'est pour ça que Paul dit « Arrêtez de vous plaindre de vos souffrances passagères, l'éternité, il n'y aura plus ça ». C'est cacahuète ici, vous allez vivre quoi, 80 balais? Moi pas, jamais. 80 ans ici, même si vous trinquez, et on va tous trinquer d'une manière ou d'une autre, ça n'est rien par rapport à ce qui vient. L'éternité dans la paix et la présence de Dieu. Donc Paul le dit dans ce magnifique chapitre 8, ce serait bien que vous le relisiez, comme ça je l'ai dit, de sa lettre à l'église de Rome, « Nous hériterons du royaume si nous souffrons avec lui ». Ce verset, j'ai déjà parlé de ça, mais je vais le rappeler parce que je crois que ce n'est pas clair. C'est un verset qui embête beaucoup de monde. Ça. Nous hériterons du royaume si, conditionnel, nous souffrons avec Dieu, avec Christ, pardon. Alors, je rassure tout le monde tout de suite, les souffrances dont Paul parle, ce ne sont pas les souffrances liées à un martyr éventuel. Ça peut, il y a des gens qui meurent martyrs, des chrétiens. Ce n'est pas le sens dans le contexte qu'il faut comprendre de cette parole de Paul. Il y a des chrétiens depuis 2000 ans qui meurent martyrs, c'est vrai. Mais si le martyr est une condition pour hériter du royaume de Dieu, nous sommes mal. Hein. Alors on prend le premier avion pour l'Ouganda, où on massacre les chrétiens, ou dans, la moitié de l'univers, du monde créé pour l'instant, on massacre allègrement les chrétiens, et tout le monde s'en fout, dans l'indifférence générale. Si c'était ça le sens de ce verset, on serait hyper mal, parce qu'on devrait s'arranger pour mourir martyr. D'accord ? Et on culpabilise les gens à cause de ça. Tu n'es pas prêt à mourir martyr ? Tu ne vas rien faire pour mourir martyr ? Le contexte, c'est la création du chapitre 8. C'est la création qui souffre. Et nous souffrons avec elle puisque nous en faisons partie. Il a placé l'homme dans la création, vous rappelez. Hein ? Ça veut dire que tout ce que nous sommes appelés à vivre de plus douloureux ici-bas et qui est lié à la même vie que Jésus a vécu ici, nous devons le vivre avec lui. Donc si vous chopez un truc sur la tête, une maladie, un truc grave, enfin peu importe, qui vous ébranle, vous pouvez le vivre avec Jésus ou le dégager en disant « tu ne sers à rien, comment c'est possible que je sois en cette situation ? Je ne veux plus de toi. » Voilà. Et être en révolte, en colère contre Dieu. Ne faites surtout jamais ça, hein, parce que la situation restera, mais vous devrez la vivre sans lui. Hein. Et c'est ça que Paul dit. Vous devez apprendre à vivre les souffrances de cette terre avec le Christ. Vous êtes content d'être venu. Hein. Alors, ces souffrances, je ne vais pas tous les énumérer. Mais voilà. Les soucis, on en a tous. Hein. Les angoisses, la maladie, la méchanceté, le mal, l'injustice, la trahison, l'incompréhension, la mort. Toutes des choses par lesquelles est passé Jésus. Hein. Toutes ces choses, nous devons y passer aussi. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Nous sommes appelés à vivre tout ça avec lui et pas sans lui. Donc, il faut vraiment bien se rappeler que toutes nos circonstances difficiles dans la vie, et même les agréables, il y en a de temps en temps, ne doivent jamais être traversées seules, mais bien avec Dieu et avec le soutien de l'Église locale. Tu as un problème d'argent ? Le Seigneur te bénisse, je vais prier pour toi. Et vous avez votre coffre-fort en Suisse rempli de bifetons. C'est Jacques qui dit ça. Hein. Ton frère a faim, je vais prier pour toi. Tu le renvoies. Ouvre ton frigo. Il n'y avait pas de frigo à l'époque de Jacques, mais c'est l'image là. Hein. Ouvre ton frigo, nourris ton frère. C'est pour ça que l'Église est le corps du Christ. Hein. Si on veut multiplier les pains, on peut encore, mais c'est à nous à le faire. Hein. Jésus ne viendra plus ici-bas, maintenant, au moment où je parle, pour multiplier les pains. Hein. Vous avez compris ça? C'est l'Église qui est supposée le faire. Si un membre souffre, toujours Paul, un membre de l'Église, hein, tous les membres souffrent avec lui. Ça veut dire quoi? S'il arrive à lui, ça m'arrive à moi. Il a mal, j'ai mal. C'est ça hein, le lien. Hein. Oh, t'as mal? C'est normal, il en fait le con. Ça, nulle part, ça. Hein. Nous n'avons pas à juger les conditions qui amènent les gens à avoir des problèmes. Hein. Ce n'est pas notre rôle. Si un membre est honoré, et dans la joie, il passe un chouette truc parce que Dieu a béni, peu importe. On se réjouit. On n'est pas envieux ni jaloux. On se réjouit pour lui. Je vais résumer ce que j'ai déjà dit jusqu'ici. Ça va être difficile. Donc, qu'est-ce qui me garantit que le royaume de Dieu est déjà là et que celui qui vient sera là un jour ? Le don de l'Esprit Saint. Donc, il constitue un avant-goût du royaume à venir. Alors, je vais résumer. Sans lui, vous allez voir, on ne peut pas s'en passer. Hein. Nous serions dans le doute en permanence quant à Dieu et son royaume. On douterait tout le temps. Sans lui, nous ne comprendrions rien, mais alors rien, à la parole de Dieu. Mais vraiment. Hein. Sans lui, nous ne pourrions pas témoigner de notre foi. Quand vous avez du mal à partager votre foi, c'est parce que vous ne laissez pas faire son travail à lui. Non, on le bloque. Je ne suis pas capable. Mais ça, je sais bien, c'est pour ça que je suis là. Comprenez ? Ben forcément. Sans lui, nous ne pourrions pas témoigner de notre foi. Sans lui, nous serions sans espérance aucune. Sans lui, nous ne pourrions pas être consolés de l'absence physique actuelle de Jésus. Sans lui, nous ne pourrions pas vivre l'absence du royaume dans sa plénitude. Sans lui, nous ne pourrions pas avoir notre intelligence et notre cœur transformés et avec eux notre vision du monde et des autres. Sans lui, nous ne pourrions pas dire « papa » à Dieu. Sans lui, je ne pourrais pas devenir la nouvelle version de moi-même, celle qui ressemble à Jésus. Sans lui, l'Église serait au mieux un club pour moralisateurs.
C'est ce que l'Église est aujourd'hui souvent.
Non, mais je plaisante. Sans lui, le royaume de Dieu ne serait qu'une chimère. Sans lui, nous ne pourrions tout simplement pas vivre la vie que Dieu nous donne à vivre. La présence de l'Esprit en nous manifeste que nous n'avons pas rêvé et que le plan de Dieu pour sauver l'humanité est bien en route. C'est une solide bonne nouvelle, ça. Il est la garantie que Dieu a déjà commencé la création d'un nouveau monde et le signe que ce nouveau monde est encore à venir. Alors, tout n'est pas encore parfait, loin s'en faut. Et je vous propose d'ailleurs à présent de nous arrêter sur quelques tensions existant dans le maintenant, entre le maintenant pardon, et le pas encore. Donc, les différents domaines où cette tension dans nos vies va exister. Il y en a trois, pour faire simple. On va voir un pour terminer aujourd'hui et je ferai les deux autres la semaine prochaine, si Dieu le veut. Alors, la première dimension, alors pour beaucoup d'entre vous, si j'étais taquin, vous n'êtes pas concerné, mais je ne le dirai pas. La sphère intellectuelle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ce qui concerne la révélation que Dieu fait de sa personne. Nous pouvons affirmer, j'espère en tout cas, pour les chrétiens que nous sommes, avec assurance et une grande joie, que Dieu s'est révélé aux êtres humains. Ça, j'espère que vous avez compris quand même. Si ce n'était pas révélé, vous ne seriez pas là. Okay? Non seulement au travers de l'univers créé, mais aussi à notre raison et à notre conscience. Ce sont trois domaines au niveau desquels Dieu s'est révélé aux hommes. Et ultimement, ça c'est the révélation, il s'est révélé au travers de Jésus-Christ. D'accord? On va prendre un des textes qui dit ça. C'est ce texte-là qui le dit sans doute le plus clairement. C'est le premier chapitre, les deux premiers versets de l'Épître aux Hébreux que tous les chrétiens détestent parce que c'est une des plus compliquées. Mais elle est magnifique, c'est ma préférée, moi. Ça n'étonnera personne. Après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, les jours derniers, c'est notre période ici, entre l'ascension de Jésus et son retour. C'est ça les derniers jours. Quand vous tombez dans un passage biblique où il parle des derniers jours, ce n'est pas la veille du retour de Jésus, c'est la période qui va de son ascension jusqu'à son retour. Nous a parlé par le Fils, donc, cette période-ci. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Petite réaffirmation de la divinité de Jésus, au passage, ça ne fait pas de mal. Okay? Nous pouvons donc dire, et c'est d'ailleurs ce que nous sommes appelés à faire, à le dire à tout le monde, que nous connaissons Dieu parce qu'il s'est fait connaître à nous. On peut dire ça parce que c'est vrai. Il a pris l'initiative de lever le voile qui le cachait à nos yeux. S'il n'avait pas pris l'initiative, on ne saurait rien de lui. S'il ne s'était pas révélé, nous n'aurions pas pu le découvrir par nous-mêmes. Ça, il faut vraiment que ça soit clair. Et nous nous réjouissons de ce qu'il nous a dévoilé de sa personne, car cette révélation projette réellement une lumière sur notre vie ici-bas. Elle éclaire potentiellement tout ce que nous pouvons vivre. C'est le sens du psaume 119, verset 105, que vous connaissez par cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous vous rappelez, hein? Ce serait bien que vous l'étudiez par cœur, le psaume 119. Il n'y a que 156 versets. Hein? Pourtant, nous ne connaissons pas encore Dieu comme il nous connaît. Notre connaissance de sa personne est partielle parce que sa révélation est partielle. Dieu est plus grand, plus complexe, est plus profond que ce qu'il révèle de lui-même dans sa parole. On a déjà du mal avec ce qu'il révèle. Et c'est d'ailleurs peut-être ce que veut dire ce proverbe biblique que je vous cite. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, rassurez-vous, il a révélé tout ce qui était nécessaire pour notre bien, mais pas tout ce qu'il aurait pu révéler de lui-même. De nombreux mystères subsistent dans lesquels nous ferions mieux, je vous donne mon avis. Moi, j'ai du mal, mais je vous donne mon avis quand même. Donc, de nombreux mystères subsistent dans lesquels nous ferions mieux de ne pas essayer d'entrer, car Dieu les a voilés à notre compréhension. Afin que nous puissions marcher par la foi et pas par la vue. Quand on connaît tout, mes amis, on n'a plus besoin de croire en quoi que ce soit. Il faut que nous apprenions à marcher par la foi. Moi, je potasse la Bible quand même un petit peu. Pas assez.
Et quand, alors, je me prends la tête, mais c'est mon boulot. Moi, je me prends la tête. Il y a des trucs qui me. Moi, je vais m'arracher. Je veux comprendre. Mais parfois, je comprends pas quand même. Je prends rien particulier le truc. Théologiquement, j'en sors pas. Là, je suis obligé de dire. Voilà, je crois ce que tu dis. Je comprends pas tout. Je te fais confiance. C'est ma foi qui joue. Il y a rien de pire que quelqu'un qui dit moi, je sais tout. Hein. Oh, je parle de moi. Voilà ce que Martin Luther, le grand réformateur du XVIe siècle, disait à ce sujet. Tout ce que nous pouvons apercevoir, c'est le dos de Dieu révélé dans la souffrance et à la croix. Il paraît qu'il était bourré quand il a dit ça, mais je dis ça parce que, en fait, les écrits les plus profonds points de Luther, c'est ce qu'on appelle ses écrits de table. Il aimait bien, il avait été moine pendant des années, il s'était flagellé, il avait bouffé des cacahuètes, même pas bouffé du tout pendant des jours, parce qu'il s'en voulait à mort, il était tout le temps mortifié. Quand il a connu la libération qu'apporte l'Évangile, il a vraiment rencontré Dieu, il est vraiment parti, il a vraiment joui de toute la liberté que Dieu lui donnait. Donc il avait ses disciples, avec sa femme, qui est une ancienne nonne, défroquée, je ne sais pas si ça dit pour une nonne, 6 enfants, comme ils ont fait, et puis tous les soirs, il mangeait, il buvait de la bière, mais vraiment, hein, mais il parlait de Dieu, hein. Et il a acheté des trucs extraordinaires à ce moment-là. Dès qu'il est à jeun et qu'il écrit, ça n'a aucun intérêt. Donc, merci Seigneur pour la bière, je présente. Hein. Mais en fait, ce que Luther dit, c'est que vous ne pouvez pas... Tout ce que Dieu nous donne à comprendre, et c'est déjà suffisant, c'est le Christ à la croix quelque part. Donc, quand on dit ça aux gens de l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu, ils ont du mal avec ça. Hein. Déjà, quel père donnerait son fils sur une croix? Enfin, vous donnerez votre fille... Ma fille sur la croix, quand c'est... Certains moments seulement. Hein. Je pense donc que Luther a raison. Et Luther est un théologien. Il a un niveau que moi, j'aurais jamais. Hein. Il avait un niveau que je n'aurais jamais. Mais à un moment, il s'arrête quand même. Il dit, il faut absolument approfondir ce que Dieu nous donne de lui, nous révèle de lui, et arrêter de nous perdre dans des trucs qu'il n'a pas révélés ou dont il ne nous a pas donné toutes les clés. Donc, il faut prendre conscience de ça pour ne pas tomber dans l'absurde. Comme ce vieux prédicateur sudiste, États-Unis, hein, dont l'histoire a perdu le nom, merci Seigneur, et qui disait en guise d'introduction à un message portant sur Dieu, « Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'inexplicable. Je vais définir l'indéfinissable. Je vais décrire l'indescriptible. Je vais sonder l'insondable. » C'est tout des paradoxes. Hein. Mais quelle prétention! Donc nous savons, et c'est important de comprendre ça, nous savons beaucoup de choses importantes, hein. Indispensable, c'est vrai. Comme par exemple que Dieu est amour. Ouh, c'est un truc indispensable à savoir, c'est ça. Mais de nombreux hommes de Dieu, comme Moïse par exemple, confessaient que sa connaissance de Dieu était limitée. C'est sans doute Paul, encore une fois, qui en parle le mieux. Première lettre de Paul aux Corinthiens. C'est donc le fameux chapitre du 13 de Corinthiens sur l'amour. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons, dont nous enseignons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, le royaume, hein, soyons clairs, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Je rappelle qu'à l'époque, les miroirs, ce n'est pas les miroirs comme ici, hein, comme à l'heure actuelle. C'était des miroirs qui étaient faits à partir de tôle. Ça reflétait une ombre, les miroirs à l'époque. Mesdames, vous ne pouviez pas vous maquiller dans un miroir à l'époque. Hein. Elles se servaient de leur mari. Aujourd'hui, nous voyons au niveau d'un miroir, au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors, quand le royaume sera venu, nous verrons face à face. Qui ? Ben Dieu. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'étais connu. Je connaîtrai Dieu dans les moindres recoins, comme lui me connaît parfaitement aujourd'hui. Mais c'est un futur, mes amis. Pour l'instant, personne ne peut dire « je connais Dieu parfaitement hein, », sauf les fous. Et dès que quelqu'un dit ça, vous êtes dans une secte, en fait, pour faire simple. Hein. Et ce n'est pas ça qui manque. Hein. Donc, ce « mais alors », ce moment où nous connaîtrons Dieu parfaitement, aussi bien qu'il nous connaît, c'est lorsque nous serons nous aussi parfaits. Si, si. Dans le royaume de Dieu et où nous pourrons le contempler face à face, sans aucun voile, sans aucun miroir. Ce ne sera plus un reflet. Ce sera la réalité que nous pourrons toucher. Mais pour le temps présent, nous savons et nous ne savons pas. Donc, quand on prêche l'Évangile, on doit parler de ce qu'on sait, pas de ce qu'on ne sait pas. Si vous ne savez pas, on vous pose une question, vous ne savez pas, eh bien, vous ne savez pas. Dites « je ne sais pas » plutôt que de dire des conneries. Hein. Parce qu'après les conneries, il faut les déboulonner. Hein. Style, mais tu viens à Dieu, ta vie sera un paradis. Aïe, 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 aïe. Il y a encore plein d'andouilles qui enseignent ça. Andouille, tu supprimeras. Hein. Mais c'est gentil, andouille, quand même. Je rappelle ce verset du Deutéronome, la Torah, 5e livre de la Bible. Hein. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées nous appartiennent. Occupez-vous de ce qu'il a révélé, ne vous occupez pas de ce qu'il a caché. Il y a plein de théologiens, de grands théologiens, peut-être même trop grands, dans la tête, qui ont passé toute leur vie à gratter et à chercher ce qui n'était pas révélé. Il est très important d'établir la distinction entre les choses révélées et les choses qui ne le sont pas, en tout cas pas encore, car nous pouvons être pleinement confiants pour les premières, puisqu'elles sont révélées. On peut dire ça, c'est vrai. Là-dessus, je peux m'appuyer, je peux me fonder là-dessus. Mais nous devons être terriblement réservés, voire agnostiques, je ne sais pas, pour les secondes, pour celles que Dieu n'a pas révélées. Sachant que très souvent, l'on se bat, dans l'histoire de l'Église, on s'est souvent battu à coups de Bible, dans la bonne période, à coups d'autodafé, torture et autres, et d'extermination en tout genre, pour celles dont on ne sait rien ou pas grand-chose. C'est pour celles-là qu'on s'est foutu sur la tête dans l'Église. Et ça continue aujourd'hui. Concentrons-nous par exemple sur le fait que Dieu est amour. Honnêtement, je ne dis pas ça pour faire joli et décoratif. Hein. Vous passerez le reste de votre vie à tenter d'approfondir ça pratiquement et théologiquement, vous n'aurez pas gâché votre vie. Hein. Rien que ça, il y a de quoi faire votre vie. Hein. Dieu est amour. Nous n'aurons jamais fini de réfléchir à ça. Jamais, me semble-t-il, hein, fini de nous émerveiller et surtout, jamais fini d'en vivre. Parce que si vous doutez que Dieu est amour, votre vie va être une catastrophe ambulante. S'il y a une chose dont il ne faut jamais douter, c'est l'amour de Dieu. Parce que lorsque l'on doute, on dit « oui, mais je doute ». Je parle pour les chrétiens. Hein, j'ai des doutes ou je me barre avec. On doute toujours de l'amour de Dieu quand on doute. C'est de son amour qu'on doute. Quand il y a des tuiles qui tombent, c'est de quoi croyez-vous qu'on doute ? Je termine en vous racontant une petite histoire, vraie. Un petit garçon de 2 ans et demi, 3 ans, va avec sa maman chez le médecin. Ce qu'elle ne lui a pas dit, parce qu'elle ne veut pas l'inquiéter à l'avance, c'est qu'il doit recevoir un vaccin. Les gosses adorent ça. Hein. Donc il est là, c'est le petit garçon devenu un peu plus grand qui raconte ça. Il est là, et le médecin s'approche de lui avec cette seringue, et sa maman le tient pour que le médecin puisse lui faire. Donc le gosse, il dit, moi je ne comprenais plus pourquoi l'être qui m'aidait le plus au monde avait accepté de me laisser torturer par cet homme, et en plus qu'elle avait payé pour ça. Okay. C'est quand 2 ans plus tard, lui était vacciné à vie, 2 ans plus tard, une épidémie de la maladie pour laquelle il a été vacciné est arrivée, c'est là qu'il a compris pourquoi sa maman, qu'il aime plus que tout au monde, lui avait fait mal un court instant pour qu'il puisse être protégé de ça. Avec Dieu, c'est pareil. Au moment où les trucs tombent, on ne comprend rien. C'est normal, ne cherchez pas à comprendre, réfugiez-vous en lui. Faites confiance à son amour pour vous. Pensez à la croix. S'il a fait ça, croyez-moi, le reste, il protégera. Il protégera ce qui est à protéger, parce que vous avez envie de protéger. Ça, j'ai plutôt tendance à dire, s'il y a un truc que vous protégez et qu'il ne veut pas avoir envie, il va vous le casser, votre jouet. Pour votre bien. Donc cette révélation de l'amour de Dieu doit bousculer notre vie, c'est-à-dire nos paroles, nos actions, nos pensées, notre théologie, parce que dire que Dieu n'est qu'amour, c'est ce que le grec dit, il y a un privatif, n'est qu'amour, ça a des conséquences théologiques terribles. Hein. Allez hop, je me lance. Vous ne pouvez pas faire coïncider l'amour d'un Dieu qui n'est qu'amour avec l'enfer, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible, je vous le dis, il faut le croire. Vraiment. Et après, il y a des textes embêtants. Mais ça, on fait avec. Hein. Encore une tension. Ben oui, encore une. Et puis surtout, savoir que Dieu est amour et nous laisser transformer intérieurement par ce Dieu amour, ça doit avoir des conséquences extraordinairement positives pour nos rapports avec les autres. Hein. Si j'ai un Dieu qui n'est que saint, comme on enseigne la sainteté, tu es un misérable pécheur et Dieu est en colère contre toi. Ou tu viens à lui, parce qu'il est aussi amour, et tu auras la vie éternelle, ou tu mourras en enfer dans d'atroces souffrances. C'est comique, ça fonctionne pas du tout ce message. C'est étonnant. Hein. Moi, un directeur de marketing qui vendrait des choses comme ça, je le vire. Hein. Ce genre de personne qui doit lancer un nouveau produit, Jésus, le sauveur du monde, car il est amour. Et je termine par une dernière citation biblique. Dans le petit de musique et les textes bibliques qui sont passés au début du culte, il y en a la dernière référence biblique, c'était le fameux Jean 3,16. Vous vous rappelez ? Le verset que tous les protestants de la planète connaissent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Vous connaissez le verset 17 qui suit ? Parce qu'il ne s'arrête pas là, Jésus. Hein. C'est comme si dans le chapitre 3 de Jean, il a dit que ce verset... Non. Qu'est-ce qu'il dit le verset 17 ? Vous ne savez pas. Hein. Eh bien, c'est grave que vous ne saviez pas. Je suis fâché. Ah oh, non, je ne peux pas. Non, je vous aime. Non, mais qu'est-ce qu'il dit le verset 17 ? Car le Fils de l'homme n'a pas été envoyé pour détruire le monde ou pour juger le monde, mais pour sauver quoi ? Le monde. Le monde. Les gens qui sont dedans. C'est comique, hein, ça ? Donc, il reste deux domaines de tension dans notre texte, enfin, dans le texte que l'on verra la semaine prochaine, la société et puis nos vies personnelles, qui sont en tension aussi. Mais ça, j'aborderai la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.